Interview, actualité, chronique, montez le son pour la fosse. L'émission rock et métal, présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Drouot Productions.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry, bienvenue dans l'épisode 44 du podcast Rock et Metal La Fosse, coproduit par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Drouot Productions, disponible sur Spotify, YouTube, Deezer, the-pit.com, Apple Podcast, Samsung Podcast, Google Podcast et bien d'autres plateformes de podcast. Si vous aimez cette émission, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme favorite pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortent chaque vendredi. Le nom, c'est La Fosse, le podcast Metal et Rock. On s'approche petit à petit du mois de juin et vous n'êtes pas sans savoir qu'en juin, c'est le Hellfest et donc pas mal de groupes français qui jouent au Hellfest une année, sortent leur album l'année d'avant ou quelques mois avant. Et c'est le cas du groupe invité de l'épisode d'aujourd'hui, à savoir Bad Situation. Bad Situation, c'est un duo de heavy rock créé par le youtubeur Dealer de Metal. Leur premier album éponyme, Bad Situation, sortira le 29 mars dans deux semaines. Ils ont quelques concerts à venir, dont La Boule Noire à Paris le 30 mars et surtout l'ouverture de la Main Stage 2 du Hellfest dimanche 30 juin. Ça, c'est dans quelques minutes. Après l'interview, comme la semaine dernière, il n'y aura pas de chronique non plus cette semaine. Mais je vais vous parler du documentaire Not on the Hip, disponible sur The Pit, qui raconte la dernière année de vie de Lickers Lake. C'est le batteur du groupe de hard rock heavy metal Hurya Hip et il a également joué pour Ozzy Osbourne sur ses deux premiers albums solo. Puis on terminera l'émission avec le traditionnel agenda concert Gérard Drouot Productions et le programme du Hellfest Corner. On écoute tout de suite Fairweather Friend, le morceau qui ouvre le premier album de Bad Situation qui sort le 29 mars et on retrouve Aziz alias Dealer de Metal, chanteur et guitariste de Bad Situation, et Lucas, le batteur de Bad Situation, juste après pour l'interview. Bad Situation, Fairweather Friend, tout de suite.
We'll be right back.
C'était Fairweather Friends de Bad Situation, le morceau qui ouvre le premier album éponyme du groupe qui sort dans 2 semaines, le 29 mars. Et le duo Bad Situation vient de me rejoindre. Il y a Aziz, plus connu sous le pseudonyme Dealer de Métal, et Lucas. Salut les gars.
Salut.
Merci beaucoup d'être là dans cette émission aujourd'hui. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, on va faire rapidement les présentations. Donc je le disais, Aziz, tu es youtubeur ou créateur de contenu, je sais pas ce que tu préfères.
Ouais, créateur de contenu, ça le fait, ouais.
Ouais, effectivement, puisque tu n'es pas que sur YouTube, ouais. Évidemment. Depuis 3 ans, en tout cas, tes premières vidéos qu'on trouve sur ta chaîne datent d'il y a 3 ans. T'en as peut-être effacé d'avant, non,
c'est non, ça ? Non, non, depuis 3 ans, je suis là-dedans et j'arrive sur ma 4e année, là, tout doucement.
Bah, en tout cas, en 4 ans, voilà, moins de 4 ans, tu as réuni une communauté de plus de 50 000 followers aujourd'hui, rien que sur YouTube. Tu es également chanteur et guitariste, et donc en 2019-2020, tu formes le duo Bad Situation avec le batteur Lucas Pelletier, ici présent. Vous êtes amis depuis le lycée, je crois.
Exactement, ouais.
Sergi Pontoise.
Ouais.
Comment ça s'est fait justement Bad Situation, puisque j'ai cru comprendre que vous aviez d'autres groupes avant tous les deux, vous jouez ensemble depuis plus de 10 ans je crois.
Ouais, ouais. Tu veux commencer?
Ouais, je peux raconter.
Allez.
Ça.
Allez-y.
Vous battez pas. Pendant le Covid, le groupe qu'on avait juste avant s'est arrêté parce que Covid. Et suite à ça, Aziz il avait envie de monter le projet Dealer de Métal qu'il avait en tête depuis un bout de temps. Donc il a fait son bout de chemin là-dessus, et puis comme on lui a demandé un petit peu la musique qu'il faisait, à un moment donné, il est revenu me voir et m'a dit « Écoute, on parlait de faire de la musique ensemble, parce qu'on voulait pas s'arrêter de faire de la musique ensemble, et il m'a dit « Si tu veux, on y retourne et on fait un truc que nous deux, vu que c'est tellement alchimique quand on est une alchimie quand on est tous les deux, qu'on fait ça à deux, et du coup, c'est parti de là, quoi. »
Dans les groupes d'avant, vous étiez avec d'autres gens, du coup.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Ok. Ouais, ouais, ouais. Et donc, si j'ai bien compris, je crois que vos anciens groupes, vos anciens projets, c'était Bad Situation, mais en moins bien. Je cite. Hein.
<C'est>...
Moi, je vous cite. Hein. Moi, je dis ça.
Merde.
Je crois que c'est moi qui ai dit ça. Ouais. Mais oui, effectivement.
C'est dans le même style, quoi.
Ouais, c'est dans la même veine. En fait, c'est la musique que Lucas et moi on compose depuis toutes ces années. Bad Situation, c'est aussi pour ça qu'on est à deux, c'est qu'on s'est rendu compte aussi que. Dans la prise de décision, la réactivité, etc. À deux, c'était plus simple. Et vu qu'on faisait déjà toute la musique dans les autres projets, on s'est dit, bah là, on va pas forcément...
Faire entrer quelqu'un d'extérieur en plus.
Ça. Ouais.
Ouais. Ça fait un cachet en moins. Voilà, c'est comme ça. C'est...
ça fait ça. Et puis en plus, il y a aussi ce côté-là de proposer un truc un petit peu atypique. Et on s'est dit, si on se lance dans un nouveau projet, sachant qu'on était encore en plein Covid... On s'est dit, on y va à fond et on en essaye de mettre toutes les chances de notre côté.
En plus, vous habitiez à côté, c'était simple. Ouais, enfin, pas loin exactement. En tout cas, donc c'était simple aussi, j'imagine, ouais, pour ouais. commencer à créer ce projet-là et voir un petit peu où vous alliez partir. Vous faites du heavy rock, moi j'appelle ça du heavy rock, voilà, c'est assez énergétique. Ça va picorer dans plein de styles, dans plein d'influences, mais j'appelle ça du heavy rock. Tout ça pour dire que, Aziz, tu es musicien avant d'être créateur de contenu YouTuber. Voilà, pas l'inverse, hein, faut quand même
exactement.
Le préciser. Voilà.
Merci.
C'était quoi votre vision, votre objectif avec ce nouveau groupe? Et surtout, voilà, en quoi ça diffère des groupes d'avant? Qu'est-ce qui a évolué à ce niveau-là?
Je pense que c'est une histoire de rigueur. Vraiment, il y a un jour, on s'est posé, Lucas et moi, et on s'est dit, est-ce qu'on y va vraiment? Si on y va vraiment, faut qu'on fasse les sacrifices qu'il faut mettre en place pour... essayer au moins d'en vivre, de gagner ses premiers cachets, etc. Donc, viser l'intermittence, c'était un des premiers objectifs. Ouais. Donc là, on est en plein dedans. Donc, c'est aussi essayer de voir jusqu'où on pouvait pousser un projet musical dans le style qu'on fait, dans le pays dans lequel on vit, et voir en fait, en proposant la musique où vraiment ça nous plaît de A à Z, voir jusqu'où ça nous menait. Avec. Une manière de réfléchir qui était propre à nous, donc avec ce format à deux, etc., un petit peu atypique, slash créateur de contenu et tout. Et en fait, c'est parti de là, ça a été ça le déclic, et on s'est dit, on y va vraiment sérieusement. Et voilà.
Et vos groupes d'avant, c'était des groupes amateurs, du coup, il n'y a pas eu de. C'est quoi le plus haut où vous êtes allé? Vous avez sorti quelque chose? Je crois que non, il y avait un album en prépa.
Ouais.
On a fait des EP, il y avait un album en prépa, mais c'était plus amateur que là où on est aujourd'hui avec Bad Situation.
Ouais, clairement. Ouais, c'est le jour et la nuit, mais on avait déjà quand même eu des expériences en tournée, etc. Ouais. On a vraiment appris avec nos projets précédents.
Tout ce qu'il fallait pas faire.
Ouais, exactement. Ouais. Et tous les métiers qui touchent de près ou de loin à la musique, au développement de projets, etc. Donc là, on a quand même gagné du temps avec Bad Situation parce qu'on a su prendre les bonnes décisions.
C'est ça.
Voilà. Au bon moment. C'est d'ailleurs, vous dites que Bad Situation, le nom, ça vient justement de la situation qu'on vivait avec le Covid, voilà, une situation merdique entre guillemets. Mais finalement, est-ce que le Covid, ça n'a pas été justement un bon truc pour vous puisque vous avez eu le temps de potasser, toi, ta chaîne YouTube en plus, parallèlement à côté. Voilà, est-ce que c'était pas le bon moment en fait pour Bad Situation finalement ?
Je pense que le Covid a servi à faire vraiment, c'était un bilan pour tout le monde. Nous, on l'a utilisé comme ça. C'était un bilan entre guillemets négatif pour le projet d'avant, mais il fallait peut-être le Covid pour qu'on se rende compte que finalement, il fallait que ça s'arrête. Et ça a servi à laisser du temps à Aziz pour monter ce projet-là. Ça nous a laissé du temps de mûrir la réflexion de voilà, quand ça va repartir. Parce que là, on est à l'arrêt. On était chacun chez soi. Quand ça va repartir, on y va à fond et ça va peut-être être compliqué parce qu'en plus, on va être en mode galère de thunes, galère de tout ça, mais il faut y aller quand même. Sinon, le temps que ça se remette en route, il va y avoir 2 ans, 3 ans, on va perdre du temps et on a un petit peu cette envie de progresser, voilà, d'y aller quoi.
Ouais, vous auriez dû vous appeler Good Situation, vous auriez fait du pop-punk. Et
ça aurait été top. On aurait fait des teintures.
En tout cas, votre premier EP, donc Bad Situation, Electrify Me, est sorti en novembre 2022. Est-ce que c'était compliqué de le sortir, cet EP ? Voilà, comment ça s'est fait ? Est-ce que vous étiez déjà avec un label en autoprod ? Enfin, voilà, comment ça s'est passé ? Enregistrement, sortie
Alors,
tout à Sergi, je crois, non ?
Même cet album-là, tout est fait à la maison. On a vraiment une manière de travailler qui est très... je vais pas dire lente parce qu'avec tout ce qui se passe, ça va quand même très très vite. Mais on va mûrir une idée vraiment jusqu'au bout. Et le fait d'avoir les moyens qu'on a aujourd'hui avec les systèmes numériques, etc., de pouvoir prendre du temps, essayer de mûrir les choses, etc., aussi être bon au niveau des prises. L'EP, il a été vraiment réfléchi parce qu'il fallait qu'il arrive à ce moment-là. On avait fait un premier titre.
Hell of Den.
C'était Out of Control.
Okay.
C'était ce titre-là. Après, on a eu des premières propositions de concert. On a joué avec Princesse Leia.
Oui.
Une ouverture de Princesse Leia. Et du coup, il avait fallu créer un set. Il a fallu créer tout ça. On a été programmé sur un premier festival, puis d'autres concerts. Du coup, il fallait
avoir des morceaux.
Exactement. Et du coup, on les a composés. Et tout le premier EP a été composé assez rapidement.
Ouais. Il a été composé pour qu'on puisse le jouer en live, donc ça a été composé en live, joué en live, et ça allait que ça sorte en mode carte de visite, voilà ce qu'on fait.
Exactement. L'énergie du rock, c'est une prise ou en tout cas pas beaucoup, pas trop d'overdub, etc.
Ouais.
Vous aviez tout fait tout seul, je crois, enregistrement, mix, mastering, je crois que Aziz, t'avais regardé des tutos pour tout ça.
Alors, il y a un peu de ça, mais je vais quand même rendre à César ce qui appartient à César, c'est que nous, on s'est occupé vraiment toute la prise de son, composition, etc. Et en fait, on a démarché Anthony Chenier, qui est un gros producteur qui vit au Québec actuellement, mais qui est un des créateurs de Smash It Combo au départ.
Que je vais recevoir dans cette émission, spoil, au mois de mai ou juin.
Magnifique,
cool.
Trop bien. Je suis trop content. C'est une des meilleures rencontres de ces dernières années, en tout cas pour moi et pour nous, parce que c'est quelqu'un que je connaissais son travail depuis plusieurs années, et je me suis dit un jour, je vais bosser avec ce gars-là. Je l'ai démarché un jour. Il a été hyper cool, la direction a été hyper fluide et il a fait un premier titre, donc Out of Control, et après il y a eu cette envie de faire l'EP, et quand on s'est posé et qu'on s'est dit bon là faut qu'on fasse un album, on appelle qui ? Voilà.
Effectivement,
c'était sûr.
Et on va en parler de cet album, mais tout d'abord, votre EP sort, vous commencez à tourner, alors je suis, c'est pour voir si vous acceptez les conditions de tourner, puisque mine de rien, c'est quand même pas facile, pour devenir en fait un vrai groupe, finalement.
Exactement. Ouais.
Et donc, vous faites notamment la première partie de Skid Row, alors Princesse Leia, t'en as parlé, mais vous faites aussi la première partie de Skid Row en novembre 2022 à l'empreinte de Savigny-le-Temple. Première partie de Skip the Use le 4 février 2023 au 12 à Sergi Pontoise, à domicile. Il fallait remplir la maroquinerie en n'ayant fait qu'un seul EP, c'était il y a un an, quasiment tout pile, le 4 mars 2023. Alors un an après, c'était comment ce concert ? Qu'est-ce que vous en gardez ? Et puis soulagement de l'avoir rempli, cette maroque ?
Ouais.
C'était très cool.
C'était très cool, c'était énormément de pression.
Ouais.
Parce que on voyait des affiches de concerts de nos groupes préférés qui remplissaient pas. On s'est dit comment nous, on va faire pour remplir cette salle-là avec un EP ?
Parce que c'est facile d'acheter des likes sur internet, mais c'est pas facile d'acheter des spectateurs.
Ouais,
exactement.
Et puis, si on devait payer les déplacements de chaque personne qui est venue au concert. Le bilan aujourd'hui de cette date-là, qui est un petit peu charnière dans la carrière du groupe, elle a été vraiment importante parce que ça nous a confrontés à la réalité du concert, du post-Covid, d'un monde qu'on connaissait plus dans le spectacle. C'était aussi prouver à certains partenaires qui s'intéressaient à nous que ce projet-là valait le coup.
Et bankable, comme on dit.
Exactement. même nous aussi, jouer dans une salle aussi prestigieuse que la Maroquinerie, bah, fallait le faire, fallait faire le show. Ça a été vraiment un des concerts, on s'est vraiment... on se donne à chaque concert. Hein. Mais celui-là, je pense qu'il y a eu le petit truc en plus, parce que dès qu'on est arrivé sur scène, en fait, les gens étaient, on sentait déjà l'énergie des gens et ils connaissaient les chansons et c'était un truc dans nos anciens projets, on connaissait pas quoi. Donc
ça doit faire quelque chose, ouais, effectivement.
Donc il y a eu ça, une prise de confiance qu'il y a eu. On s'est dit là, c'est vraiment on y va. Et les retours qu'on a eu juste après le concert de ces partenaires là étaient vraiment encourageants. En fait, ça nous a donné du fuel, de l'énergie.
Une petite impulsion pour ouais, continuer. Ouais, voilà.
pour se dire, voilà, on a commencé dans le dur, on a à peine sorti un EP, on est déjà dans le sud de la France devant 80 personnes dans une ville qu'on ne connaît pas. Et quand même 80 personnes, alors que personne ne nous connaît. Ça, c'est cool. Donc du coup, voilà, il y a ça. Et puis bah, un an après, là, tu vois, au moment où... On est en train de discuter. Hier ou avant-hier, on a annoncé notre complet.
On va en parler. Voilà.
Donc,
on va en parler.
C'est beaucoup. Peut-être que je suis déjà en train de spoiler, mais et voilà, ça a apporté beaucoup de positif.
On va en parler effectivement. Et vous avez également fait la première partie de Massisteria le 2 décembre 2023. À ce moment-là, voilà, ça se passait plutôt pas mal pour vous. Vous avez eu des bonnes dates, des bonnes affiches. Vous êtes remis au boulot et donc premier album Bad Situation qui sort le 29 mars. Vous avez hâte, j'imagine.
Très très hâte.
Ouais.
Trop hâte. Il est temps, on peut plus.
Ouais, c'est.
C'est concrétisation de quelque chose. Voilà, c'est ouais. Un EP, c'est la première marche, mais là, c'est vraiment la première grosse étape, quoi. Et alors, on a écouté le morceau qui ouvre l'album tout à l'heure, Farewell a Friend. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce morceau? De quoi il parle? Est-ce qu'il y a une anecdote sur la compo? Parce que c'est quand même celui que vous avez choisi pour ouvrir le morceau, je trouve assez punchy. Voilà.
Ouais.
Ouvrir l'album, je sais pas ce que j'ai dit.
Ça ouvre l'album. Déjà, dans les thèmes, Farewell a Friend, c'est un petit peu une allusion au masque qu'on peut aussi se mettre. C'est aussi pour ça que le personnage sur la pochette
s'enlève
un visage, ouais. C'est voilà, s'affranchir du regard des autres, ne pas forcément se sentir obligé d'appartenir à un groupe pour se sentir exister. Voilà, on peut tous exister en tant que personne individuelle, même dans un groupe. Donc ça fait un petit peu allusion à ça, et c'est aussi de pas aller au-delà de ses valeurs. Ça mentionne un petit peu tout ça, un petit peu imagé. Après, on a utilisé celui-là parce qu'on s'est dit, putain, ça commence par un Larsen, ça gueule, let's go.
Ça vous résume bien, effectivement. Et ben, on va écouter un autre extrait de votre premier album, Bad Situation, et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de l'interview. On écoute Bruised and Battered de Bad Situation, tout de suite.
I can be exposed to my shame. It's calcium.
Bruised and Battered, The Bad Situation. Alors, même question que tout à l'heure, de quoi il parle ce morceau, comment il a été écrit, composé, est-ce qu'il y a des anecdotes?
J'essaie d'en me souvenir au fur et à mesure.
Lucas, pour retourner dans le passé, c'est lui qui va vers, vers l'avenir. Là, si je lui demande ce qu'il a fait hier, déjà c'est compliqué. Déjà, je peux dire que le riff d'intro de cette chanson, c'est le premier riff qui a été composé pour l'album. C'est là où j'ai dit à Lucas, je dis, je pense que j'ai le premier riff de l'album.
Ok. Mais c'est pas le premier morceau de l'album.
Mais c'est pas le premier morceau de l'album. Et en fait, Bruised and Battered, en plus on est dans les studios de GDP, donc il y a un petit relationnel avec Bruce Springsteen. C'est en fait c'est la première phrase de Street of Philly. De Philadelphia.
Je peux pas vous aider, je suis pas hyper calé.
J'ai oublié le titre, mais c'est ouais, je crois que c'est ça, ouais. Le giga titre de Bruce Springsteen, il dit I was bruised and battered.
Et en fait,
du coup, on voulait faire un petit peu un clin d'œil à tout ça, à toute cette ces icônes du rock, ouais, c'est ouais. Ça.
C'est un peu un hommage au classique rock finalement, Bad Situation.
Exactement, ouais. Et c'est aussi dans nos influences, alors plus du côté de Lucas, moins du mien. Mais du coup, je m'inspire aussi de ce qu'il fait vibrer pour justement essayer de faire des
choses. Pas le laisser de côté finalement.
Exactement.
Parce que s'il n'est plus là, malheureusement, tu te retrouves pas un one-man band, mais c'est complètement autre chose.
Ouais, et puis j'ai pas 6 bras. Mais du coup, voilà, c'est ça. Et le côté bruised and battered, c'est vraiment être écorché un petit peu.
C'est raccord avec le thème de la pochette. Alors, du
ouais,
coup,
un petit peu égratigné, etc. Et en fait, on voulait vraiment que ce soit le premier titre qui soit écouté de l'album. Parce que c'était aussi un retour pour nous, et en fait, quand on a composé l'album, on était encore en tournée de l'EP. Donc, ça faisait écho un petit peu à tout ça. Donc on s'est dit, ouais, le côté un peu Bruce Springsteen, classique rock, on arrive, ça jump, etc. Voilà, c'est ça.
Au moment de créer Bad Situation, vous avez réarrangé ou gardé des compos que vous aviez fait avant? Vous avez vraiment, vous êtes partis de zéro tous les deux? Enfin, voilà, comment ça s'est passé pour la musique du coup de Bad Situation, d'abord l'EP, l'album, voilà, comment ça se passe entre vous?
Sur les premiers shows, les deux premiers shows, il y avait des titres qu'on avait sous le coude qu'on a joué. Mais on est vite parti sur de la compo pour proposer quelque chose de neuf. Parce que même nous, ça nous dérangeait de jouer des titres qui...
Qui dataient,
ouais.
qui
étaient peut-être c'était pas... plus nous. Ouais.
Comment vous avez évolué justement? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce que vous avez apporté pour Bad Situation? Qu'est-ce que vous avez essayé de changer dans votre son, dans votre manière d'appréhender la musique? Je sais pas. C'est une question pas facile.
Est-ce qu'on a apporté ou est-ce qu'on a justement... on s'est pas bridé, peut-être c'est plus ça. On n'a pas apporté quelque chose en plus parce que de toute façon la composition est souvent faite entre Aziz et moi. Mais on s'est pas donné de limite. Et nous on dit qu'on fait du rock, mais du coup c'est vrai que dans la musique qu'on fait, on entend qu'il y a un panel hyper large.
Au sens très large.
C'est ça. C'est
surtout parfois il y a des petites pointes de stoner, parfois un peu de métal. Enfin voilà, c'est du rock au sens large.
C'est ça, ouais. Exactement. C'est se dire, comme on dit, il n'y a pas de case. Et nous, on fait vraiment tout ce qu'on imagine, toute la musique qu'on a envie d'entendre. C'est la musique qu'on fait, sans que ce soit cacophonique. Et voilà, ça reste... Mais c'est la musique qu'on aime, c'est la musique qu'on fait.
Ouais, c'est, y a vraiment, dans le sens zéro limite, c'est pas genre on part dans du free jazz, etc. Mais c'est vraiment... quand on part sur une influence qui va pas être forcément la mienne ou un truc un petit peu lointain, eh ben on va essayer, ça nous donne une direction. C'est plus ça où il y a une cohésion encore plus forte dans notre manière de procéder.
Et ça nous fait progresser dans nos instruments respectifs, en fait, parce qu'on va se challenger, parce que je suis pas guitariste, il est pas batteur, mais il va me dire, putain, j'imagine un truc comme ça. Il le fait avec sa bouche, il a...
Je sais pas le faire.
Ouais. Et du coup, j'apprends. Donc en fait, on progresse aussi toujours, nous, dans notre musique à travers
même
ça.
Même si ça fait 10 ans que vous travaillez ensemble.
C'est ça.
Et donc, on l'a pas dit, enfin, t'en as parlé très rapidement, Aziz, tout à l'heure. Il n'y a pas de bassiste avec vous dans le groupe. C'est toi, Aziz, qui t'es occupé des parties de basse en studio pour que ça passe en live, du coup, aussi.
Exactement.
C'était une volonté de votre part de faire un peu comme les White Stripes ou les Black Keys à leur début, quoi.
Ouais. Il y avait ce truc-là de... on a conscience que le projet qu'on a, il est atypique. On est quand même, on nous fait passer un peu pour des gens qui n'aiment pas les bassistes, alors que moi c'est un instrument que je défends avec bec et ongles. Mais en même temps, quand j'ai un groupe qui n'a pas de bassiste, ça peut porter à confusion. Mais on est conscient de ce que l'instrument apporte en termes de fréquence. Et ça, on le perd pas en live parce qu'on a travaillé notre son de sorte à ce que...
On peut voir tes blogs, il y a plein de trucs sur les pédales d'effet, etc. Enfin voilà, c'est assez intéressant.
On a vraiment travaillé ça. En fait, c'est pas plus dans la composition qu'on a réadapté des choses, c'est dans la manière d'appréhender les chansons et la scène et l'espace, en fait. C'est plus ça où à deux, il faut donner deux fois plus,
pas se cacher.
Exactement.
Oui, absolument, c'est ça. Et donc, en tout cas, pour cet album, il y a eu 4 mois de compo. Je crois que c'était assez rapide, assez fluide. Hein. Vous connaissez bien, je pense que ça vient de là aussi. Quoi.
Ouais, et comme tout est à la maison, on compte pas nos heures.
Voilà, y a du bon et du mauvais là-dedans, mais bon, effectivement.
Ouais, et même dans certaines idées, il y a des trucs que Lucas a tranché à ma place. Enfin, voilà, il y a aussi ce truc-là. Vu qu'on se fait confiance et tout ce qu'on fait, c'est pour le bien du projet, le bien de l'album, le bien de nos chansons, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas vraiment d'ego là-dedans.
Ça, c'est pas comme un groupe de rock, ça, du coup.
C'est pas rock.
Non, on n'est pas rock.
C'est pas rock. En tout cas, Aziz, c'est toi qui as écrit les textes, je crois. Alors, est-ce qu'il y a un fil directeur de quoi tu parles, en gros, de quoi tu t'inspires? Est-ce que c'est du fictif? Est-ce qu'il y a une part personnelle dans tes textes? Voilà, qui es-tu en tant que songwriter?
Il y a un mélange de tout. Il y a un mélange de tout. J'aime bien le côté quand une musique, tu l'écris et en fait, t'appartient plus. Donc les gens
interprètent.
Exactement.
En gros,
j'aime beaucoup ce truc-là, un petit peu... Hetfield dans sa manière d'écrire, etc. Parce que Metallica, c'est une école qu'on adore tout particulièrement.
J'aurais bien aimé y aller à l'école Metallica, ça aurait été bien.
Je la cherche encore si quelqu'un a une adresse. Mais c'est un mélange de tout. Après, quand je sens qu'il y a un espace pour du perso, et quand je dis perso, c'est pas forcément que moi, c'est des histoires qui me touchent, même de manière indirecte. Donc c'est un mélange de tout. À chaque fois, pour nous, on essaye de mélanger le meilleur des deux mondes. Et voilà quoi, donc il y a des titres très perso dans l'album et titres
Drown peut-être.
Drown, ouais, ouais. C'est celui-là qui voilà. Et du coup, il y a tout un truc. Je me fais plaisir dans l'écriture parce que c'est aussi le seul moment où je suis un peu tout seul. Voilà, c'est vraiment.
Tu n'as pas ton mot à dire.
Alors, il a le droit de regard, mais du coup, c'est full confiance. Ou alors, des fois, quoique tu t'es quand même un peu plus un.
Ouais, ça va être plus. Oui, dans le.
La manière de poser.
C'est ça. Ouais. Peut-être, mais c'est vraiment dans l'écriture pure d'enjambement, de pas mettre moins de mots. Mais je n'écris pas à sa place. Le fond, c'est lui. Voilà, je peux vraiment que de l'artistique et de la mélodie.
Ouais, c'est vraiment un travail à quatre mains, quoi, entre guillemets. Voilà, vous enrichissez mutuellement. Est-ce que vous avez noté une progression par rapport à votre premier EP, que ce soit dans le chant, dans les morceaux, dans votre son également? Est-ce que vous avez testé des nouvelles choses? Voilà, est-ce que vous sentez une progression à ce niveau-là?
Dans le chant, on peut dire oui.
Ouais, ça fait prétence, mais je me suis vraiment mis une rigueur, quoi.
C'est ça. On a vraiment poussé les lignes de chant. Même si dans l'EP je chante, dans l'album on a vraiment poussé.
Tu fais les chœurs, oui, c'est vrai, voilà, je l'ai pas dit. Tu fais les chœurs.
Mais là dans l'album on a vraiment poussé les harmonies et les chœurs sont hyper présentes.
C'est Lucas qui fait toutes les harmonies des refrains.
Ah oui, pas mal, ouais.
Voilà, c'est tout. En fait, on a ce truc-là un peu justement classique rock, années 70 et tout, où ça chante, les trucs un peu folk et tout, qui est vraiment dans ce que Lucas vraiment dégage. Et en fait, on s'est dit, plutôt que je me prenne la tête à essayer de faire la ligne d'en dessous, alors que Lucas il l'a genre tout de suite, bah, en fait, on va le faire et puis on va le refaire en live aussi parce que c'est cool.
C'est
et,
ça. Oui, vous êtes fait plaisir aussi. Au
finalement, je dois la faire en live, autant que je la fasse sur le skate de base, comme ça, y a pas de, c'est pas différent. Et donc voilà. Ça, en tout cas, au niveau des voix, oui, on a eu un vrai travail là-dessus. Après, en termes de riff mélodie sur les refrains, on est allé aussi plus loin dans nos mélodies de refrains, les choses plus assumées. Il y a des ponts aussi où quand
j'ai fait de la voix de tête.
J'ai fait de la voix de tête. C'est vrai.
Ça rentre dans le technique là.
Ouais. Non, mais il y avait même dans des ponts avec des riffs qui sont vraiment un petit peu plus sombres, vraiment plus. On s'est pas dit si l'émotion est là, faut aller au bout du truc. Donc on a poussé, comme on disait tout à l'heure, on a poussé les curseurs au max. Si on va dans une direction, on y va.
Aucune limite.
Faut
ouais,
pas
d'accord.
que ça fasse à moitié fait.
Exactement. C'était vraiment le truc. Si on y va, on y va à fond. Mais en fait, je crois que c'est notre phrase à chaque fois. Hein. Ouais. Si on y va, on y va à fond. Et si ça fait à moitié, c'est que c'est pas bien. Donc il faut trouver un truc mieux.
Alors, en tout cas, moi, au niveau du son, je notais une certaine évolution juste à mon niveau, on va dire, d'amateur de musique, c'est tout. C'est peut-être le mastering. Le mastering a été fait donc par Chris Kremet, qui s'occupe notamment de Comeback Kid, de Slaves, etc. Ouais. C'est peut-être lui qui a apporté cette touche-là.
Il avait fait aussi ça sur l'EP.
Ah, d'accord.
C'est vraiment la même équipe. Okay. Mais...
Donc Anthony Chauniard au mix et donc mastering Chris.
Okay. Et en fait, je pense que tout le monde s'est mis en tête qu'il fallait faire sonner l'EP comme une démo. Je sais que Anto, pour avoir discuté avec lui, il a dit « Je prends cet album-là énormément à cœur. » Donc, il nous avait même bloqué 2 semaines de en tournée. Il tournait avec un autre groupe. Il a dit « Bad Situation, c'est ma priorité. Je vais faire en sorte que ce... »
Il fallait qu'on passe un step.
Voilà. Et lui aussi, il le sentait, je pense. Après, on avait plein d'échéances, plein de choses qui se jouaient. Il était au courant. Donc c'était aussi aller, tout le monde devait aller dans la même direction. Et je pense que Chris aussi, j'ai pas trop échangé avec Chris, mais c'est plus Santo. Mais je pense que le step, il vient aussi de là, de voilà, on y va vraiment à 200% tous ensemble, quoi.
En tout cas, c'est la même équipe sur l'EP et sur l'album.
Ouais, exactement.
Eh bien, on va écouter un dernier extrait de votre premier album, Bad Situation, et on se retrouve pour la troisième et dernière partie de l'interview. Il y aura également les questions flash, un focus sur un documentaire de la plateforme The Pit, l'agenda concert Gérard Drouot Productions et le programme du Hellfest Corner. On écoute tout de suite On My Own de Bad Situation. I cannot tell myself if you're here tomorrow. Now the time has come, but you never let me, never let me go.
Now
c'était Bad Situation avec le morceau On My Own. Vous écoutez le podcast La Fosse et nous sommes dans la troisième et dernière partie de l'interview d'Aziz, alias dealer de métal, chanteur, guitariste et bassiste de Bad Situation et Lucas, le batteur de Bad Situation. Alors On My Own, il parle de quoi? Est-ce qu'il y a des anecdotes? Voilà.
On My Own, ça a été un des titres le plus perso de l'album.
Ah, je pensais que c'était Drown, moi, effectivement.
Ouais, bah j'ai mis beaucoup de choses dedans. Drown, une certaine partie, et On My Own, il y en a deux, trois comme ça, voilà. Mais là, c'était... voilà, en gros, j'ai grandi dans un cadre familial un peu chaotique, et de par un père assez violent avec ses enfants, avec la femme à qui il vivait, etc. Et du coup, j'ai voulu en parler, mais pas dans le sens où je voulais dire « regardez à quel point j'ai souffert », etc. J'ai plus apporté comme une lueur d'espoir, comme une envie de s'émanciper de tout ce qui peut être néfaste à notre... toxique, néfaste. Et voilà quoi, c'était plus une lueur d'espoir. Et c'est vrai que je m'en suis... Parce que des fois, je communique en mon nom propre autour du projet et des fois, ouais, communication autour du groupe. Mais là, j'en ai parlé un tout petit peu. Et le nombre de messages que j'ai reçus de personnes qui ont vécu les mêmes choses, enfin à peu près, le même type de violence, bah, ça a été pour moi le titre ne m'appartient plus. C'est vraiment tout le monde se prend dans les bras, quoi. C'est vraiment une lueur d'espoir pour dire qu'on n'est pas seul et que c'est pas parce qu'on a eu un passé assez compliqué que ça doit définir notre futur. Donc voilà.
On My Own n'est plus à toi du coup maintenant.
Exactement.
Est-ce qu'il y a des morceaux qui vous ont particulièrement challengé sur cet album? Alors Lucas, il va plus s'en souvenir, mais
je peux le dire parce que c'est moi qui ai enregistré ses batteries.
Ouais.
Falling Apart.
Ouais, Falling Apart. Ouais. Alors, voilà. Pour le coup, c'est des parties. Il y a une partie double. C'est pas forcément mon jeu habituel parce que c'est pas l'école que j'ai à la base.
Double pédale, hein, je précise.
C'est ça,
hein.
Double pédale. Ouais. À la double pédale. Et mais quand on le dessine, quand on fait notre petit croquis dans notre tête, ça nous semble évident qu'il faut que ça parte là-dessus.
Ça sonne très bien sur Guitar Pro, mais...
C'est exactement ça. C'est du coup, ok, et puis après, je fais quoi? Donc après, Aziz part, moi, je suis tout seul avec ma batterie, et puis du coup, je m'enferme, et il faut que ça rentre. Et c'est là où je te disais, on progresse aussi, parce que voilà, donc il faut que ça rentre, et maintenant, ça rentre, et je suis hyper content. Mais ouais, c'était un challenge de rentrer des parties comme ça qui sont pas dans un jeu habituel pour moi.
Ouais, moi, je pense que c'est On My Own qui m'a le plus challengé. Chaque titre a un petit peu sa particularité. On a essayé d'apporter un truc différent. Tu vois, sur Drown, on a essayé de... là, je rentre dans la technique, dans l'enregistrement, mais normalement, on double toutes les parties de voix. Là, on s'est dit, le propos du titre doit être très...
nu.
Très nu, donc du coup, on va pas mettre beaucoup d'artifices, donc qu'une seule voix. Voilà, y avait plein de choses. On a vraiment essayé de réfléchir les titres de manière individuelle dans un tout. Le titre Somebody to Someone aussi, il m'a challengé parce que il y a très peu d'éléments. C'est très simpliste dans l'approche et moi qui fais beaucoup de riffs, beaucoup de notes, beaucoup
tu te caches derrière les notes de musique.
Oser les tempos un peu ralentis et voilà, accepter les silences, les lenteurs, etc. Ouais. Tout ça s'appréhende.
Surtout si vous le jouez en live, du coup, tu as moins de notes pour te cacher derrière.
Exactement.
C'est pas évident. Alors niveau concert, samedi 30 mars, vous serez donc à la Boule Noire à Paris pour la release partie de votre album qui sort donc la veille avec Calaveras en première partie et c'est complet. Tu le disais un petit peu tout à l'heure, c'est complet depuis quelques jours. Voilà, j'imagine que vous êtes fiers, vous êtes contents, quoi. La Boule Noire, quoi. Après la Maroc, la Boule Noire.
Exactement. Et là, ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment eu la possibilité de faire tout ce qu'on voulait pour cette soirée. On a choisi le groupe, on a choisi le lieu. On nous avait proposé plusieurs endroits, mais on s'est dit la Boule Noire, c'est quand même cool parce que c'est un des premiers lieux où j'ai vu Lucas jouer en concert.
Il y a une petite symbolique aussi.
Donc là, l'équipe qu'on a autour de nous arrive à nous laisser suffisamment d'espace pour qu'on arrive à vraiment gérer le projet comme on veut, avec d'énormes conseils, etc., qu'on prend vraiment très au sérieux. Mais voilà, le Calaveras, on a validé tous les deux, j'ai écouté tout un tas de groupes. On fait une session d'écoute. Il y a plein de choses autour de la sortie qu'on a géré tous les deux, c'est des trucs qu'on a rêvé de faire depuis plusieurs années maintenant, et là, on a la chance de pouvoir le faire comme on l'avait imaginé, donc c'est très très satisfaisant.
C'est un rêve qui se concrétise.
Exactement.
Vous serez également le 10 mai à Glomel en Bretagne au Craze E-Fest, le 16 mai à Arlon en Belgique à l'Entrepôt, le 17 mai à Ytre en Belgique aussi au Zic Zac. Il y a une date le 18 mai qui n'a pas encore été annoncée, je crois.
Brasserie de la Mule. C'est Brasserie de la Mule, c'est à Bruxelles. Et c'est une salle, c'est la salle de concert de Bruxelles.
Ok, bah, ouais. J'avais pas vu passer effectivement. Le 25 mai à Corneau, donc ça c'est en Suisse, au Korn Rock Festival. Alors vous jouez le 31 mai ou le 1er juin au festival Rock à l'usine à Istres dans le sud-est. Je sais pas quel jour c'est. Je sais pas
si c'est le premier, du coup ça a été confirmé.
Le 1er juin, donc c'est le samedi je crois de mémoire. Ouais. Ouais. Et dimanche 30 juin, vous allez donc ouvrir la main stage 2 du Hellfest. Alors vous êtes un groupe super jeune, vous allez jouer au Hellfest. Comment ça s'est fait ?
Très bien. c'est très bien fait. Tu y vas ? J'y vais.
Restez ici quand même.
comment ça s'est fait ? Ouais, je saurais pas comment le. Bah ça hyper naturellement en fait. C'est vraiment. Il y a une stratégie qui a été mise en place à partir de la maroquinerie un peu l'an dernier, qui allait avec la sortie de l'album, avec les gens avec qui on travaille. On s'est dit il serait bien si l'album sortait. Qu'on ait quelque chose à présenter au moment où le Hellfest écoute les albums à présenter. On a fait en sorte que ça se fasse et c'est vrai que je suis un petit peu ça l'élément déclencheur, c'est qu'on a calé notre calendrier, notre timing pour que on soit écoutable et entendable de tous pour avoir cette sortie là en mars, pour avoir tout ça. Et je crois que suite à ça, l'écoute a plu et qu'on y est.
Ouais.
Est-ce que Aziz, ta communauté YouTube, ta réputation en ligne a pu être un avantage pour sortir du lot à ce niveau-là ou pas du tout, vous pensez ?
J'aurais pu te dire oui à un moment. Mais dans les messages qu'on s'est envoyés avec Lucas au moment où l'album a été envoyé, j'ai dit écoute, là il n'y a pas dealer de métal, il n'y a pas tous les abonnés, il n'y a pas tout ça, ils vont écouter le CD et le seul moment où on saura si c'est bon, c'est parce que notre CD sera écouté et que ça sera cohérent avec leur programmation. Alors je pense que oui, ça doit jouer. Mais
vous n'avez pas mis en avant, en tout cas au début.
Non. Et on a surtout mis en avant que sur l'année qu'on venait de passer, on avait fait 32 dates pour montrer qu'on était un groupe qui n'était pas à son coup d'essai, justement pour justement s'émanciper de cette image-là de gars dans sa chambre ou dans son bureau qui fait des vidéos. Et parce que comme tu l'as dit, on est des musiciens avant tout. Et voilà, donc quand on a eu la confirmation, on l'a eu aussi. On s'est mis un coup de collier parce qu'on savait que justement cette année c'était cohérent musicalement,
oui,
avec ce qu'on proposait. Et c'est aussi le coup de collier qui nous a mis, voilà, parce que quand on a su que c'était Foo Fighters, on s'est dit ok. Et quand on enregistrait l'album, c'était on disait cette phrase là on fait tout ça pour le truc dont on n'a pas le droit de parler. Voilà, parce que voilà, et en fait c'était ce truc là qui revenait un petit peu.
On fait ça pour David Chaussure,
c'est ça. Et du coup voilà, donc très content que tout ça se fasse. Si ça peut se faire, c'est parce que on a pu proposer un album de qualité, des shows cool, parce qu'il a fallu aussi montrer qu'en live, voilà. Une date qui a été très importante aussi, c'est le Quai Metal,
oui,
qu'on a joué l'année dernière à La Roche-sur-Yon, où justement quelques personnes du Hellfest étaient là pour venir nous voir. Par chance, le concert qu'on a fait, c'était dans le plus petit club, et en fait les gens n'arrivaient pas à rentrer. En fait, il y a eu des mouvements de foule parce que les gens ne pouvaient pas rentrer. Donc ça a bien joué en notre faveur, je pense.
Effectivement. Alors, est-ce que vous pensez à l'inverse que le fait d'avoir un YouTuber, entre guillemets, je dis ça parce que les gens, ils mettent les étiquettes comme ça, d'avoir un YouTuber dans le groupe, ça peut vous porter préjudice du genre, bah, c'est juste le groupe d'un YouTuber, voilà, comme si un YouTuber pouvait pas faire de la bonne musique.
Ouais. Alors...
Vous avez 4 heures. Tu as calculatrice interdite. En fait,
je vais te laisser répondre parce que tu es le plus concerné. Moi, j'ai un avis aussi, mais on partage le même. Mais je vais laisser Aziz.
En fait, c'est des réflexions. Tu vois, pour aller un petit peu plus loin, en fait, on devait déjà faire le Hellfest l'année dernière.
Ok.
Mais sur la Hellstage.
D'accord. C'est la petite scène qui est à l'entrée
du
festival.
Et en fait, on voulait justement pas parce qu'on s'est dit bon, on a qu'un EP et le gars de YouTube. En fait, je voulais pas. En fait. Avant que les gens aient cette réflexion-là, nous-mêmes, on l'a. Et quoi qu'il arrive, je pense que... Je sais pas trop, hein. Et peut-être que je vais passer pour un mec prétentieux, mais dans les créateurs de contenu, en tout cas en France, qui font du rock ou du métal, je sais pas s'il y a un groupe qui a fait 32 dates en un an. Je sais pas.
Je pense pas, non.
Voilà. Donc, déjà, il y a ça, donc cette envie d'aller sur la scène, de se mettre en danger, clairement. Et... Si les gens viennent, il y a forcément ce truc-là un petit peu curieux, c'est sûr. Mais il y a aussi des gens qui viennent nous voir pour mais avec des mauvaises intentions. Donc en fait, quoi qu'il arrive...
Carrément, des mauvaises intentions.
Ouais. On en a des réflexions. En fait, il y a des trucs très très cool et des trucs moins cool, mais on prend, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on est des meilleurs amis de longue date, on fait des chansons qu'on aime, on peut les jouer dans des conditions très cool, en donnant le meilleur de nous-mêmes. Il y a des gens qui sont contents, comme nous, des fois on va voir des concerts d'artistes, on n'est pas spécialement fan, etc. Ouais. Il y a zéro problème, mais c'est vrai que mettre la réussite de Bad Situation sur le dos des vidéos que je fais sur YouTube, je pense que c'est un petit peu voir le truc de manière un peu facile, quoi.
Surtout que quand on voit tous les extraits de concerts que vous avez publiés sur notamment ta chaîne YouTube, on voit qu'il y a beaucoup de curieux, il y a beaucoup de gens qui sont à fond dedans et que ça s'achète pas malheureusement. Non, heureusement plutôt.
Après, Lucas, il a une vision un peu intéressante de ça parce que
Moi, ce que je dis souvent, c'est un peu bateau, mais je dis qu'il y a la moitié du groupe qui n'est pas youtubeur. Moi, je ne suis pas du tout. Donc finalement, c'est vite vu s'il n'y aurait qu'un demi-succès. Grâce à ça, et je sais que c'est, il faut le voir avec intelligence, je sais que c'est la solution de facilité de trouver que ça peut marcher grâce à ça. Je suis assez gentil pour accepter que ouais, les gens le pensent comme ça et ils ont le droit et c'est pas grave. C'est faux. Mais on ne peut pas changer de toute façon la pensée des gens sur Internet.
Il faut qu'ils viennent vous voir.
Mais venez nous voir en concert et on est ouvert à la discussion et on peut prouver que ça n'a rien à voir.
Si vous avez des bonnes intentions, venez. Voilà.
C'est ça, exactement. Même si vous n'en avez pas, venez.
Vous sortirez en souriant.
Qu'est-ce que vous avez d'autre de prévu en 2024? Est-ce qu'il y a d'autres concerts, d'autres festivals qui vont arriver? Est-ce que vous allez refaire une grosse tournée cette année?
Ouais, on préparait la boule noire jusqu'à la semaine dernière. Après la grosse échéance, c'est le Hellfest. Après c'est de faire tous les concerts qu'on a, mais là le travail de fond là qui est fait actuellement au moment où on parle, c'est une tournée pour à partir de septembre jusqu'à novembre,
donc l'automne. Ok,
exactement. Ouais. donc c'est ça notre focus là. Après on a un album qu'on a envie de défendre à fond le maximum possible, donc on verra, mais je t'avoue qu'il y a 2-3 riffs qui commencent à revenir un petit peu, des envies de faire 2-3 titres, etc. Mais on stocke tout dans la boîte à riff.
Oui, c'est pas le moment, effectivement. D'abord, défendre cet album qui sort très bientôt. C'est presque la fin de cette interview, mais avant de se quitter, on va passer aux questions flash, petite série de questions-réponses rapides que vous pourrez retrouver en vidéo sur les réseaux sociaux de The Pit Edition, Facebook, Instagram, TikTok et le blog de The Pit Edition. C'est parti pour les questions flash. Qu'est-ce que vous chantez sous la douche ?
Qu'est-ce que vous chantez ? Moi, ce matin, j'ai chanté On My Own parce que je voulais répéter ma partie. Du coup, j'ai chanté sous la douche, mais ça, c'était très long.
Cut the Line de Papa Roach.
Quel est l'album qui vous a le plus marqué ?
Wasting Light de Foo Fighters.
Oui, ouais, et Meteora de Linkin Park.
Quel est votre meilleur souvenir de concert ? Ça peut être un concert que vous avez donné ou un concert que vous avez vu en tant que public.
Moi, il n'y a pas longtemps. Alors, un des derniers, je suis allé voir avec mes parents et ma copine. Je suis allé voir Bruce Springsteen et c'était super cool parce que je ne l'avais jamais vu. C'était le rêve de ma mère de le voir et ça, c'était très cool.
Ouais.
Quel est votre pire souvenir de concert ?
Ah, moi, lui, je l'ai.
Vas-y.
Lui, je l'ai parce que c'est son anniversaire aujourd'hui, May Rest in Peace. Il y a le groupe L.I.A. avec Vinnie Paul de Pantera qui joue avec son groupe à côté de chez nous. Il m'offre une quiche au fromage.
Ouais, important. Fromage.
Il m'offre une quiche au fromage. On mange un petit peu, mais c'est surtout que je reviens au concert le soir. Et en fait, je suis avec mon t-shirt de Dimebag et je monte sur scène et je dis « Ah, Vinny, Dimebag !» Et je me prends un plaquage par le mec de la sécu. Je suis sorti de la scène, mais sans avoir touché le sol.
Ouais. Il n'a pas eu son bisou.
Voilà. Parce que du coup, après, tu te dis « C'est vrai que son frère... »
C'est vrai que... Ouais, voilà. C'est vrai.
Oh la vache, je m'attendais pas à ça parce que ça commençait bien.
Oui, la quiche au fromage, c'était un beau souvenir. Il y a une photo de la quiche au fromage.
Il y a une photo de la quiche au fromage.
Pas de photo d'après.
Vous êtes plutôt côté sombre ou côté lumineux ?
Lumineux.
Sombre.
Plutôt Slipknot ou Metallica ?
Metallica.
Slipknot, hein.
Plutôt Slipknot ou Foo Fighters ?
Foo Fighters.
C'est un slip fou.
Plutôt les Foo Fighters ou Anchor ?
Foo Fighters.
Un mot pour décrire Bad Situation ?
Le smile.
Avec quel groupe vous aimeriez tourner ?
Sachant que cette année, on fait quand même un concert sur une affiche de tous nos groupes préférés. Est-ce qu'on l'a pas déjà fait ?
Ouais, c'est clair. Là, on a tout.
Tournez, trichez pas.
Allez, pour le kiff, je dirais Royal Blood en mode soirée à deux.
Ouais, c'est ouais, grave.
soirée échangiste.
Soirée couple.
Si vous aviez un super pouvoir, ce serait lequel ?
Me téléporter pour plus être en retard.
Qui se téléporte pour plus être en retard ?
À quoi êtes-vous accro ?
Aux réseaux sociaux.
Café.
Est-ce qu'il y a une reprise que vous aimeriez jouer ?
Oh, tellement.
Mais oui.
On a tellement de reprises qu'on a commencé à jouer et qu'on a arrêté de jouer.
Oui, on a mis repris.
On avait une reprise de Neil Young qu'on faisait avant.
Ah oui, c'est vrai.
Keep on rocking the free world. Voilà,
ça, on faisait ça.
Quel est votre morceau préféré de votre premier album Bad Situation ?
Attends, je viens d'avoir un flash, je veux jouer avec Mammouth Wolfgang Van Halen.
Oui, ouais. Ça c'est oui. Oh,
voilà.
Ouais, de ouf.
Je réponds maintenant à cette question-là que j'ai oubliée.
Et donc, quel est votre morceau préféré de votre premier album, Bad Situation ?
Moi, je crois que c'est On My Own.
Moi, c'est le titre Stuck, qui est à la fin.
Et pourquoi faut-il écouter ce premier album de Bad Situation ?
Parce qu'il y a le titre Stuck, qui est à la fin.
J'ai pas vu.
Ouais, parce qu'on a mis tout notre cœur, voilà.
Eh ben merci beaucoup Aziz
merci
et Lucas de Bad
merci,
Situation. Ciao. Je rappelle que le premier album de Bad Situation sort le 29 mars et que bah voilà, vous avez plein de concerts à venir dont La Boule Noire le 30 mars mais c'est complet et notamment le dimanche 30 juin en ouverture de la Main Stage 2 du Hellfest. Merci beaucoup,
hell
à bientôt.
Yeah.
Avant de passer à l'agenda concert Gérard Drouot Productions, un mot sur la plateforme The Pit qui a sorti il y a quelques semaines le documentaire Not on the Hip. C'est un documentaire sur le batteur britannique Lickerslake qui a joué dans le groupe de hard rock heavy metal Uriah Heep, ainsi que sur les deux premiers albums solo d'Ozzy Osbourne. Bref, c'est un musicien incontournable des années 70-80. En 2018, alors qu'il ne lui reste qu'un an à vivre, Lickerslake se lance le défi d'accomplir plusieurs objectifs inachevés avant que le cancer ne l'emporte, et notamment retourner sur scène et lancer sa carrière solo. Le documentaire le suit pendant les derniers mois de sa vie et raconte l'inspirante histoire d'un homme qui sait que ses jours sont comptés, mais montre aussi qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Not on the Hip est disponible pour les abonnés de The Pit. L'abonnement c'est 6€ par mois, 66,6€ par an, c'est sans engagement et il y a 7 jours d'essai offerts. Rendez-vous sur the-pit.com. On passe tout de suite à l'agenda concert Gérard Drouot Productions et le programme du Hellfest Corner.
Besoin d'un coup de main pour choisir un concert ? Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Drouot Productions.
Le tribute band Queen Extravaganza fait une grosse tournée des Zéniths en France du 24 mars au 9 avril. C'est le seul et unique groupe validé et produit par les membres originels de Queen, Roger Taylor et Brian May. Ça commence donc le 24 mars à Rouen, puis le 25 à Amiens, le 26 au Zénith de Paris, le 28 à Nancy, le 29 à Dijon, le 30 à Saint-Etienne, le 31 mars à Toulon, le 2 avril au Palais Nicaïa à Nice, le 4 au Summum à Grenoble, le 5 à Narbonne, le 6 à Pau, le 7 à Bordeaux et le 9 à Rennes. Vous avez tout le détail sur gdp.fr. Il reste encore quelques places pour le supergroupe de hard rock Mr Big, mardi 26 mars au Bataclan à Paris. C'est un groupe formé dans les années 90 par Eric Martin au chant, Paul Gilbert à la guitare et Billy Sheehan à la basse. Ne ratez pas les deux concerts français de Judas Priest et Saxon, qui ont d'ailleurs sorti tous les deux un nouvel album récemment, et ce sont deux très bons albums. Les deux groupes britanniques vous donnent rendez-vous à la halle Tony Garnier de Lyon, vendredi 5 avril, et lundi 8 avril au Zénith de Paris. Enfin, le line-up complet du festival Heavy Weekend a été annoncé. Ça, ce sont les 21, 22 et 23 juin à Nancy. Et donc, en plus de Scorpions, Extreme, Deep Purple, Judas Priest et Alice Cooper, on retrouvera Pretty Maids, Tom Morello, Aaron Jones, Sortilège et The Last International. Le Hellfest Corner maintenant, demain, samedi 16 mars, c'est la Saint-Patrick. Vous aurez un shot offert si vous venez habillé pour l'occasion. Il y aura de la Guinness et des whisky irlandais en happy hour toute la soirée et un délicieux Irish Coffee à découvrir. Le brunch du chef Gendriège a également été déplacé au dimanche 17 mars. Il y a plusieurs formules de 20€ à 42€ sur réservation sur le site du Hellfest Corner, par MP sur les réseaux sociaux ou directement auprès de l'équipe du bar. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La Fosse. Vous retrouvez les podcasts comme d'habitude sur Spotify, YouTube, Deezer, the-pit.com, Samsung Podcast, Apple Podcast, Google Podcast. Le nom c'est La Fosse, le podcast métal et rock, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Alors exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, voilà, je pars en vacances, je m'octroie quelques jours de vacances. Je vous retrouve jeudi 28 mars, c'est le dernier jeudi du mois de mars, donc vous savez peut-être ce que ça veut dire une émission spéciale enregistrée et diffusée en direct au Hellfest Corner. Et pour cette troisième émission spéciale de l'année, je vais recevoir les Tambours du Bronx, le mythique collectif de percussion qui a évolué en s'entourant de chanteurs et de guitaristes pour se mettre au métal sur ses deux derniers albums, Womp, Weapons of Mass Percussion, sorti en 2018, et Evil Ocean, sorti en juin 2023. Ils joueront au Trianon à Paris dimanche 31 mars avec Clone, Psycup et Nanowar of Steel. Mais si vous voulez les rencontrer, en rencontrer certains avant, rendez-vous jeudi 28 mars à 20h au Hellfest Corner. Vous pouvez assister à l'émission et tenter de gagner deux places pour le concert de Megadeth mercredi 19 juin au Zénith de Paris, offerte par Gérard Rouault Productions. Je vous donnerai plus d'informations sur place. C'était Raphaël Udry, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end, peu importe. Et je vous donne donc rendez-vous jeudi 28 mars à 20h au Hellfest Corner.
Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et ThePit.com.